Liandreux, avec des invités en plateau, des reportages et un regard sur la nuit blanche ailleurs. France Culture à la 5e nuit blanche, nuit du 7 octobre, de 21h à 1h du matin, dans la cour d'honneur du Crédit Municipal, 55 rue des Francs-Bourgeois. Entrée libre. Tout savoir sur franceculture.com.
Un petit coup d'œil sur le programme de France Culture. Dans un instant, les chemins de la connaissance à la Société des Druides. 11h30, à voix nue, entretien avec Louis Schweinzer, ancien président directeur général de Renault, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, aujourd'hui président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD. L'économie et la politique ne sont pas ses seuls centres d'intérêt. Louis Schweinzer aime aussi le théâtre, la peinture et la bande dessinée. Quatrième entretien, tous les arts, toutes les cultures. Midi, tout arrive, littérature, table ronde critique autour des livres Démolir Nisard d'Éric Chevillard aux éditions de Minuit, Mémoire de Porc-Épic d'Alain Maboncou aux éditions du Seuil, Paris l'après-midi de Philippe Villain chez Grasset, En nous, la vie des morts de Laurette Nobécourt chez Grasset également. 12h30, le journal de la rédaction, 12h50, seconde partie de Tout arrive avec Alain Weinstein pour L'amant en culotte courte aux éditions du Seuil, et Alain Fleischer pour Dancing aux éditions du Seuil aussi. Et tout de suite, Jacques Meunier et son invité.
Chemin de la connaissance, cette semaine, la Société des Druides. Aujourd'hui, l'Esprit des Gaules, avec en duplex de Marseille, Patrice Arcelin, directeur de recherche au CNRS. Patrice Arcelin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Je rappelle d'ailleurs au passage que vous êtes archéologue. On aura l'occasion de s'en apercevoir tout au long de cette émission. Et nous poursuivons donc avec vous l'exploration des thèmes et des pratiques de la religion des anciens druides. Cette fois-ci, justement, par l'autre bout de la lorgnette, si j'ose dire. C'est-à-dire en remontant des sous-couches et des traces dégagées par l'archéologie vers les documents et témoignages antiques. Car l'un des apports majeurs de la recherche récente sur les cultes à l'âge du fer consiste précisément dans la validation archéologique des informations antiques, en particulier dans le vaste domaine des coutumes funéraires et des croyances eschatologiques. Nous allons donc arpenter avec vous, Patrice Arcelin, les sites et sanctuaires voués au culte, et pour nous mettre sur la piste, nous partirons des traces à la fois les plus claires et les mieux dissimulées, un peu comme la lettre volée d'Edgar Poe, les traces qui se sont déposées dans la toponymie. Patrice Arcelin.
Oui, tout à fait. On a les principales sources d'information apparaît au début de l'époque romaine à partir d'une part de l'épigraphie et d'autre part d'une relecture critique de la toponymie. Il est ainsi possible de mettre en évidence l'existence de divinités celtique, honoré au cours du second âge du fer, sur des sites de hauteur, par exemple, il y a des puissances uraniennes, dans la poursuite de cultes très anciens, depuis le néolithique, si l'on se réfère aux gravures du mont Bégo, par exemple. Mais la toponymie est très riche autour des principales montagnes de la Provence. Pour prendre quelques exemples précis, tels que le mont Ventoux, qui a gardé dans sa toponymie le souvenir d'une divinité Winturos, bien attesté à l'époque romaine par un petit sanctuaire découvert au pied du site, donc du début de l'Empire, faisant appel à cette même divinité. Mais exactement, d'autre part aussi, d'autres hôtels ont été trouvés au pied du Luberon, dans le sud du Vaucluse, ou près d'Aix-en-Provence, un peu plus au sud encore, la montagne de la Sainte-Victoire, non christianisée, de la même présence du dieu Wintour, donc une divinité, encore une fois, uranienne, liée aux hauteurs, à la lumière, une divinité topique, une divinité régionale.
Alors, Patrice Arcelin, il y a également l'épigraphie qui peut vous mettre, vous archéologue. Alors, je précise d'ailleurs d'emblée que vous vous êtes spécialisé justement dans les sites de la région que vous habitez, donc autour de Marseille, le sud-ouest.
Oui, le sud-est en général.
Le sud-est, pardon, de la France. Oui. Voilà.
Tout à fait.
Alors, l'épigraphie, alors notamment, vous avez fait une découverte autour d'un culte à Bélénos.
Oui, le culte de Bélénos, qui est connu dans l'ensemble de la Gaule, donc c'est très intéressant, est un dieu uranien, dieu de lumière, est tout à fait lié également au culte des eaux, donc un dieu guérisseur. C'est un petit peu l'Apollon des cultures classiques.
Oui.
Or, récemment, c'est-à-dire autour de 1998-2001, oui, donc c'est pas très ancien, le réexamen d'un site au pied d'une colline qui précédait ce que la carte de Peutinger, dans l'Antiquité tardive, nous dénomme comme la Mutatio Bellinto. On n'avait fait aucun rapprochement autour de ce nom. La fouille nous a permis de découvrir, dans un lieu de source pérenne, très abondante, qui fonctionne toujours, plusieurs dizaines de morceaux de stèles, qui remontent, vu leur contexte stratigraphique, au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être même antérieurement, et qui corroborent tout à fait ce culte pérenne sur place, donc qui a franchi les étapes de l'âge du fer et de l'époque romaine, à travers le nom de l'agglomération. Donc on a un culte à Bélénos, très très ancien, sur ce site, ce qui confirme les autres dédicaces d'époque romaine collues à Bélénos, autour de la région marseillaise, autour de Marseille, voire à Marseille même.
Voilà. Alors, vous avez constaté, Patrice Arcelin, une grande diversité de lieux de culte dans leur forme, hein, et puis dans leur situation. Oui. Aussi. Alors, en particulier lié à des particularités, des singularités du paysage ou des phénomènes, des manifestations naturelles qui rappellent évidemment que la communication avec les dieux et avec les ancêtres se faisait justement au travers de ces manifestations naturelles.
Bien sûr. Comme dans l'ensemble du monde celtique, les cultes sont tout à fait liés au milieu naturel, à la nature. Les dieux sont dans la nature.
Oui.
Ils ne sont pas enfermés dans des temples dans le monde celte.
C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a souvent des bois sacrés dans les sanctuaires.
Tout à fait. Alors, il y a bien sûr ces bois sacrés, avec un magnifique exemple dans la région de Marseille, qui est décrit par Lucain, donc un poète latin du 1er siècle, dans sa description de la guerre civile autour de Marseille, ce qu'on appelle le poème de la Farfalle, et qui nous fait état d'un bois sacré dans la région de Marseille, qui n'avait jamais été profané, dit-il, qui était entouré de ses rameaux entrelacés, avec un air très hébreux, des ombres glacées, impénétrables au soleil. Donc bien sûr, il y a un côté très emphatique dans tout cela. Mmh. Et il nous dit qu'à l'intérieur de ce bois, il y avait des autels dressés sur des tertres sinistres, et tous les arbres sont purifiés par le sang humain. Donc une allusion à des sacrifices humains qui ne sont malheureusement pas connus, comme dans Gaule-Belgique par exemple, par des sanctuaires qui ont pu être fouillé dans le midi, donc on ne connaît que cette allusion à de tels sacrifices. Alors, il y a aussi d'autres, nous avons vu à l'instant les cultes de hauteur, hein, avec ces allusions donc au culte de Wintour. Mais il y a bien sûr des grottes également.
Oui, alors...
grottes et résurgences.
Commençons peut-être, Patrice Arcelin, par les sites les plus nombreux quantitativement, c'est-à-dire ceux qui... alors, dans le midi de la France, on comprend que ça soit donc lié à cette ressource essentielle qu'est l'eau, hein, dans ces régions karstiques du midi. Donc, ce sont tous les sites liés aux cours d'eau, aux sources ou aux résurgences.
Tout à fait. L'épigraphe du début de l'époque romaine a été recensée, elle est très très abondante pour l'époque augustéenne et le premier siècle de notre ère, avec beaucoup d'allusions à des divinités indigènes topiques qui sont toujours honorées, et la moitié de ces inscriptions sont en rapport avec les cours d'eau, les sources, voire les cours souterrains. Il y a bien entendu aussi des découvertes effectuées directement dans des grottes. Je pense à plusieurs grottes de l'Aveyron qui ont donné près de cours d'eau qui sortent de ces mêmes grottes, des dépôts d'objets, des fibules, des monnaies, des céramiques qui sont entreposés tout au long de l'âge du fer et parfois même jusqu'au 4e ou 5e siècle de notre ère, ce qui montre toute cette pérennisation de ces cultes jusqu'à une date très tardive.
Alors on évoquait, Patrice Arcelin, la toponymie en commençant cette émission. Là, vous relevez que la moitié des noms régionaux à la racine celtique sont justement liés à cette manne liquide.
Oui, tout à fait. Il y a un exemple célèbre qui est la divinité Nemosus.
Et oui.
De Nîmes, qui a laissé son nom également, qui autour avec bien entendu des cultes féminins, souvent liés à la fécondité et aux guérisons, les fameuses mères celtiques qui resteront, qui passeront, je dirais même dans la religion chrétienne aujourd'hui, sous forme de la Vierge et des Vierges, je pense aux Maries par exemple, la tradition des Maries arrivée dans le sud de la France, tout cela est très très présent à travers l'épigraphie du début de l'Empire, et nous montre véritablement des cultes antérieurs qui sont au moins des cultes du second âge du fer.
Voilà. Donc là, pour vous, archéologue, l'indice du lieu de culte, pour ce qui concerne donc ces régions aquatiques, on va dire, ce sont des dépôts, des trésors, oui. des ex-voto.
Voilà. Qui dit tout culte et envers une divinité implique un dépôt, un don. Donc automatiquement la multiplication de dépôts de monnaie par exemple, de fibules, donc des objets relativement importants pour ces populations, et puis plus modestement de céramique, voire à des dates plus récentes de simples morceaux de métal qui paraissent encloués et qui paraissent tout à fait symboliques, des petits rectangles, des lamelles qui peut-être entouraient un message pictographique peint à défaut d'être écrit, et que les personnes déposaient dans le sanctuaire de la divinité.
D'accord. Alors, deuxième type de site cultuel, Patrice Arcelin, ce sont les grottes. Alors, évidemment, puisqu'on parle de druidisme, on imagine que ce sont des lieux propices donc à l'isolement, bien sûr, et à la transmission dans le secret des connaissances druidiques.
Et oui, donc les grottes, c'est la relation avec les puissances octoniennes.
Également, bien
voilà,
sûr.
Voilà, donc on est au cœur de la terre, on peut toucher les parois, donc c'est quelque chose de très important. Et les allusions de Pline, de Pomponius Mela, de Lucain ou de Sénèque aussi, nous montrent ce besoin de repli des druides et des religieux en général vers ce monde du silence, où l'on peut s'inspirer, méditer et transmettre également à des novices les connaissances. Là aussi, les grottes sont très nombreuses. On a beaucoup d'exemples dans le Midi, on pourrait en détailler, mais bon, ça nous amènera un peu loin.
Oui, non, mais cela dit, quels sont les indices pour vous, archéologues, de, par exemple, justement, la présence d'un enseignement druidique?
Ça ne laisse pas beaucoup de traces matérielles.
Mais oui.
Donc ce sont les textes anciens, les auteurs que je vous citais il y a un instant, qui font des allusions au repli de ces druides dans les bois profonds ou dans des grottes, dans le silence. La transmission de l'enseignement est orale, vous savez, dans ces cultures anciennes, et donc elle est aussi secrète. On n'écrit pas, il est interdit, les druides avaient interdit d'écrire dans l'alphabet grec, par exemple, à des dates récentes, les connaissances religieuses. C'était puni de mort. Donc il y a un secret, l'enseignement est préservé par les connaisseurs, par les gens de la connaissance que sont les druides.
Alors là aussi, Patrice Arcelin, des dépôts enfouis, des trésors...
Des trésors, ce ne sont pas toujours des trésors fabuleux, ça peut être des ensembles très relativement modestes, mais on trouve en effet, mais pas toujours dans des sanctuaires constitués, mais dans des lieux qui devaient être des lieux frontières, des lieux de passage usuels, des dépôts qui ont une valeur relativement importante, groupant par exemple des plats d'importation étrusque, quand nous sommes au 6e siècle, donc des objets de grande valeur quand même, qui étaient accumulés par 5-6 à la fois avec d'autres objets de fabrication régionale, et qui montrent des offrandes de prix, qui étaient donc destinées à une divinité dont nous ignorons très certainement toujours le nom, malheureusement.
Alors, dans ces ensembles votifs, ces offrandes, on peut imaginer qu'il y avait également donc des dépôts propitiatoires pour les guerriers au combat. Et je vous propose, Patrice Arcelin, d'écouter donc ce témoignage de Strabon, le géographe. Justement, c'est un extrait de la géographie sur les mœurs guerrières des Gaulois.
La race que l'on appelle aujourd'hui dans son ensemble race gallique ou galatique est passionnée pour la guerre, prompte à la colère et vite portée à se battre, mais au demeurant fruste de mœurs et sans vice. De ce fait, si on excite les Gaulois, ils se ruent tous ensemble dans la bataille sans se dissimuler et sans regarder à droite ni à gauche. Ils sont alors faciles à vaincre pour qui veut les combattre par la manœuvre. Il suffit qu'on provoque leur colère par n'importe quel prétexte au moment et à l'endroit désiré pour qu'on les trouve prêts à tout risquer sans autre secours que leur force et leur audace. Si au contraire, on agit par la persuasion, ils s'offrent sans difficulté à faire des choses utiles et on les voit même s'essayer aux arts libéraux et à l'éloquence. Leur force vient en partie de leur taille, qui est haute, en partie de leur nombre. À la simplicité et à l'exubérance des Gaulois s'ajoutent beaucoup d'irréflexion, beaucoup de vantardise et une grande passion de la parure. Ils aiment à se couvrir d'or, portant des colliers autour du cou et des cercles d'or aux bras et aux poignets, et les dignitaires s'habillent de vêtements teints à la cuve et pailletés d'or. À cause de cette légèreté de caractère, la victoire les rend insupportables, mais la défaite les plonge dans la stupeur.
Extrait de la géographie de Strabon, donc, qui décrit le caractère de ces guerriers gaulois, qui nous rappelle d'ailleurs d'autres descriptions, notamment chez Diodore de Sicile, où l'auteur nous apprend que certains méprisent la mort au point d'entrer dans la lutte nue avec un simple caleçon. Et il est vrai que certains guerriers celtes, pas seulement dans les représentations et la statuaire, se lançaient presque nus dans la bataille.
Oui, c'est ce qui a tout à fait impressionné les Romains au moment de l'invasion de l'Italie au début du IVe siècle. Ils se sont retrouvés face à ces hommes, en effet, qui étaient seulement vêtus de braies, bien souvent, ouais. Et alors qu'eux étaient parés d'armure et, ou de cotes de protection. Et cela les a profondément étonnés. Et puis alors surtout, ce côté vantard, ce oui. côté hurleur et le tout accompagné de chants et de musique très très rauques qui étaient faites pour impressionner et voilà. Détruire, casser le moral des troupes auxquelles ils faisaient face.
Voilà ce que nous dit Diodore encore. Quand les troupes sont rangées, ils ont l'habitude de s'avancer hors des rangs et de provoquer les plus braves en combat singulier, en agitant leurs armes pour frapper de terreur leurs adversaires. Si quelqu'un répond à leur défi, ils chantent les prouesses de leurs ancêtres.
Eh oui, là, c'est quelque chose qui est fondamental. Puisque là, on retrouve non seulement la vaillance, la vantardise, mais également ce besoin de se mesurer, et puis cette absence de peur de la mort.
Oui.
Les Celtes sont profondément religieux. Ils sont convaincus que la mort héroïque, la belle mort, comme on dit, sur un champ de bataille, lui vaudra immédiatement une réincarnation. Ce n'est qu'un mauvais passage, difficile, douloureux. Mais ils sont absolument sûrs de se réincarner et de revenir dans les enfants futurs.
Voilà
donc le Celte n'a pas peur de cette transition, donc ça le rend excessivement courageux, voire téméraire sur le champ de bataille.
Alors on verra aussi, Patrice Arcelin, que ça explique notamment le culte très important voué aux ancêtres, qui est partout présent, partout visible. Mais continuons donc cette déclinaison des types de sites voué au culte. La troisième catégorie importante, donc vous l'avez évoqué à propos du Mont Ventoux et de la montagne Sainte-Victoire, ce sont les hauteurs et les sommets.
Oui, les hauteurs sont très fréquentées à toutes les époques. Parce que ce sont souvent des lieux
de circulation.
Oui. Ce sont des montagnes peu élevées. On a de très bons exemples avec, des vestiges retrouvés, par exemple, dans le Var, où l'on a à Cuers. ou à Corrence, dans le Var, des sites marqués par des offrandes, soit de petits bijoux, soit à Corrence. Nous sommes là sur la transition entre deux populations sans doute. D'ailleurs, c'était une limite d'évêché, à l'époque plus récente, ce qui recouvre souvent des séparations anciennes. Mmh. Et là, on a toute une série de rondelles avec des étoiles gravées dessus, et puis des monnaies, et des monnaies qui se répartissent entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère.
Ah, ce qui vous permet de dater en même temps le...
Voilà, on peut dater la fréquentation, et ces étoiles ont été ajustées ce titre, approché par un collègue, d'un culte de Taranis.
Ah oui.
Lié au hauteur, à la foudre. Mmh. Donc, oui. Certainement, un culte de ce type-là. Bien entendu, aucun texte, aucune inscription n'accompagnait ce sanctuaire, qui est un petit sanctuaire rural, qui n'est même pas entouré, délimité. Les pièces ont été trouvées dans la nature. Très certainement, l'air était marqué par quelques pierres qui ont disparu aujourd'hui. Tout le monde connaissait ce sanctuaire, puisqu'il est resté pendant près de 10 siècles en activité.
Mmh. Alors, souvent, Patrice Arcelin, c'est le repère d'un sanctuaire gallo-romain qui vous met en quelque sorte sur la voie d'un plus ancien lieu de culte celte.
Oui, parce qu'il y a eu souvent une continuité. On a rhabillé et reconstruit de manière beaucoup plus monumentale dans les mœurs de l'époque sous le Haut Empire des sanctuaires qui étaient beaucoup plus simples auparavant. Mmh. Que l'on retrouve je pense que Jean-Louis Bruno a dû vous en citer pour le nord de la Gaule dans des émissions précédentes. Ces grands sanctuaires délimités par une enceinte du style Téménos, oui. N'est pas bien connu dans le sud de la Gaule aujourd'hui. On a des textes qui le montrent, qu'ils existent, mais on les a physiquement, archéologiquement, pas encore reconnus. Par contre, sous des temples et des sanctuaires d'époque romaine, on a énormément de vestiges plus anciens, remaniés, mais conservés précieusement dans les remblais inférieurs.
Alors vous le disiez, là aussi souvent c'est le culte voué aux puissances célestes qui se pratique, les orages, la foudre.
Et oui, c'est très important. Hein. Mmh. Très important, et c'est lié bien entendu aux hauteurs, aux élévations. Hein.
Voilà.
Donc c'est par contre les grottes et les milieux souterrains, ce sont des puissances chthoniennes aussi, majeures dans le Panthéon, et puis les déesses mères. Liés aux soins et aux eaux courantes, aux eaux vives.
Mmh. Voilà. Alors, tous ces sites donc qui comportent des dépôts votifs qui peuvent être, comme vous venez de le dire, des bijoux par exemple, ou de l'or, des pièces de monnaie. Ces sites n'étaient pas spécialement protégés, notamment des voleurs et des brigands.
Non, le caractère sacré,
il y a
un tabou très fort. Hein. Les textes gréco-latins nous le redisent, nous en font état.
Notamment César, qui dit que tout manquement était puni d'une mort terrible dans les tourments.
Tout à fait, donc c'est là une profanation insigne, quelle personne ne se risque. Donc l'or est fort bien conservé, sans protection particulière, au sein des sanctuaires.
Oui, c'était d'ailleurs un interdit généralement partagé.
Par le monde antique.
Par le monde antique,
oui. Tout à fait.
Alors, il y a également, à plus basse époque, on va dire, des lieux, des sites voués au culte dans les agglomérations.
Oui, tout à fait. L'agglomération devenant une place centrale importante au sein des territoires, par leur multiplication, leur fortification et leur importance, regroupant donc au début quelques centaines de personnes, et puis à l'époque tardo-hellénistique quelques milliers de personnes, inévitablement, des sanctuaires se sont lentement créés à l'intérieur de ces agglomérations. Mais il s'agit de petits sanctuaires qui restent modestes. C'est une pièce à l'intérieur d'un îlot d'habitation qui va être consacrée à la divinité. Et là aussi, l'ensemble est fort bien attesté par le dépôt de modestes petits objets. Ce que l'on retrouve souvent, c'est un bric-à-brac de lamelles de bronze, par exemple, ou de vieux objets qui ont parfois un siècle ou deux, et qui sont objets de famille, très certainement, qui sont déposés très pieusement à l'intérieur de ce sanctuaire.
Voilà, alors il y a aussi à l'intérieur même des maisons des traces de cultes privés, toujours donc signalés par ces dépôts votifs
sur les seuils. Voilà, sous les seuils ou les sols des habitations, des objets, des vases complets, intacts, qui devaient à l'époque contenir peut-être des laitages ou du miel et qui sont enterrés. D'autres aussi qui vont contenir des restes de sacrifices d'animaux, voire des animaux complets. On connaît dans la région de Martigues, par exemple, une chèvre qui est complète, qui a été enterrée dans l'angle d'une habitation sous un seuil. Donc une offrande, très certainement, aux divinités protectrices de l'habitat, voire à des divinités personnelles du propriétaire de cette maison.
Voilà, ce qui montre qu'il y avait également un culte privé chez les Gaulois. Alors je vous propose de passer à un autre sujet, si j'ose dire, plus musical. On évoquait donc la bataille. Voici l'un des instruments de la victoire des Celtes. C'est un instrument de musique, le carnix. C'est Christophe Vandriès qui en parle ici. Christophe Vandriès qui est paléomusicologue.
Alors le carnix, c'est un instrument extrêmement insolite puisqu'il est unique dans toute l'Antiquité et même, je dirais, dans toute l'histoire de l'organologie. C'est une grande trompe celtique jouée en position verticale et coiffée d'un pavillon en forme de hure de sanglier, puisque le sanglier est un animal emblématique chez les Gaulois, incarnation du monde sauvage, et donc on a retrouvé plusieurs vestiges de carnix en Europe celtique.
Je ne sais pas si le son que nous entendons est celui du carnix, mais ça me rappelle en tout cas ces lignes de la bibliothèque historique de Diodore de Sicile, nous dit que les guerriers celtes, les guerriers gaulois, possédaient des trompettes d'une nature particulière et bien faite pour des barbares. En soufflant dans ces trompettes, ils en font sortir un son rauque qui convient bien au tumulte du combat. Et qui devait ajouter à l'effet de terreur que ces guerriers voulaient créer sur le champ de bataille.
C'est un encouragement pour les troupes qui vont se lancer au combat. Hein. C'est fait pour les doper. Et c'est également un son guttural très prenant et très difficile à écouter. J'ai eu le plaisir d'écouter jouer un carnix. Oui. Et donc c'est en effet, on imagine des dizaines de carnix en ligne sur les premières lignes.
Oui. En plus, l'instrument lui-même avait une apparence assez terrible.
Oui, tout à fait. Oui, c'est très totémique.
C'est ça.
Oui. Et puis malheur aux vaincus après, puisque ils en perdront souvent la tête.
Voilà. Alors justement, vous faites une distinction qui vous semble donc autorisée par l'archéologie, Patrice Arcelin, entre, le rituel des têtes coupées. Jusqu'à présent, on avait tendance à rassembler les deux choses dans un même culte des têtes coupées, entre guillemets. Donc d'un côté, le rituel lié au combat, de détachement, donc d'un trophée sur le corps de l'ennemi vaincu. Et de l'autre côté, le culte des ancêtres qui se réfère donc à cette même importance, disons, de la figuration de la tête.
Oui, et puis surtout des filiations. Il y a donc un traditionnalisme très puissant chez ces aristocrates du second âge du fer, où il faut non seulement honorer ses ancêtres, mais également se référer à leur existence et leur vaillance. Parfois imaginaire d'ailleurs, mais peu importe. Alors en effet, on sépare aujourd'hui très clairement...
Ou légendaire, voilà.
Ou légendaire, oui, c'est ce qui peu importe. Le tout que chacun y croit, ou fasse semblant d'y croire, c'était l'essentiel. Hein. Alors on sépare en effet aujourd'hui très clairement les têtes prélevées sur le champ de bataille. Et Diodore de Sicile nous en parle très largement, nous montrant, Tite-Live également, nous montrant en Italie les celles qui s'arrêtent après la bataille. Par exemple, devant Rome, qui est une ville porte ouverte, les Romains sont vaincus, les celles peuvent rentrer tout de suite dans Rome, et non, ils vont s'arrêter 24 heures sur le champ de bataille pour couper des têtes, les accrocher sur des lances devant leurs tentes ou bien à l'encolure de leurs chevaux. Donc ramener des trophées, c'est très important comme démarche chez eux. Alors ça, c'est un fait, donc bien attesté par l'archéologie dans le Midi de la Gaule, où on a retrouvé en effet des crânes humains suspendus ou violemment cloués sur des portes de ville ou des portiques monumentaux. Mais par ailleurs, on sépare clairement aujourd'hui le respect de ce culte des ancêtres où il s'agit en somme de reliques, très certainement des éléments du crâne, pas l'ensemble du crâne, mais le masque avant de la personne, qui était très certainement reconstitué par surmodelage et peint, donc une manière agréable à regarder bien entendu, et qui était présenté sur des linteaux ou des piliers de portiques, donc abrités du vent et des intempéries. Et ces portiques deviennent des portiques cultuels, qui certainement étaient honorés à l'occasion de fêtes religieuses, comme les trois nuits de Samhain, par exemple, où on honorait le mort et le passé. Voilà, c'est un moment début novembre, un moment privilégié. Hein. Et puis, on sait très bien que par goût personnel, si on écoute Nicanthe de Colophon, un poète grec du IIe siècle, qui nous précise à propos des pratiques oraculaires des Celtes, les Celtes passent la nuit près des tombeaux de leurs héros. Voilà, donc il est clair que ces portiques servaient également pour s'assoupir le soir et essayer d'avoir une divination, un phénomène que les Celtes appréciaient beaucoup. Ils aimaient essayer de connaître l'avenir.
Voilà, alors il y avait aussi les masques reliquaires et les figurations en pierre de ces masques des ancêtres qui dénotent donc ce culte très important des anciens. Merci Patrice.
C'est moi qui vous remercie.
Arcelin, nous étions avec vous en duplex de Marseille. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié avec Jean-Louis Bruno un état des questions sur les sanctuaires et les pratiques de Gaule celtique, un numéro spécial de la revue Gallia aux éditions du CNRS. Texte lu par Yasmine Modestine, à la console aujourd'hui Bruno Gagnère, Les Chemins de la Connaissance, une émission de Jacques Munier, préparée par Avril Ventura et Meryl Moneghetti, réalisée par Doria Zénine. Vous écoutez France Culture, il est 11h30, l'heure de retrouver l'émission À Voix Nue.
Cette semaine, Louis Schweitzer entretient avec Dominique Rousset. Aujourd'hui, tous les arts, toutes les cultures. Entretien donc toujours avec Louis Schweitzer. Nous parlons davantage après avoir parcouru votre période plus politique comme directeur de cabinet de Laurent Fabius au sein de trois ministères successifs, dont le poste à côté du Premier ministre, après avoir également vu votre parcours chez Renault. On aborde à présent votre passion pour, disons, la culture au sens très large. Là, nous retrouvons un domaine qui nous est plus familier sur cette chaîne, mais je ne sais même pas par quoi commencer. Vous intéressez à la musique, vous intéressez au théâtre, vous intéressez à la littérature. Vous vous intéressez à la peinture, vous vous intéressez
aux arts premiers,
vous vous intéressez à la nourriture qu'on peut classer comme un art également. Bien sûr, vous n'êtes pas le seul à le faire. Ce qui est très particulier chez vous, c'est que dans tous ces domaines que je viens de citer, il vous faut en plus occuper une fonction. Vous êtes président, maintenant vous venez parler des arts premiers, vous êtes président de la Société des Amis du Musée du Quai Branly. Vous êtes également administrateur d'établissement public du Musée du Louvre. Vous aimez la musique, eh bien vous vous intéressez, la salle Pleyel vient de rouvrir, c'est après 4 ans de travaux, ouverture très attendue. Vous êtes le président du Cercle de l'Orchestre de Paris, je crois, ou des Amis, voilà. Ce sont deux exemples. Vous vous intéressez au théâtre, c'est un peu plus récent, mais c'est aussi frappant. Vous êtes le président du conseil d'administration du Festival d'Avignon. Vous avez dit qu'on peut très bien s'intéresser à l'art, à la culture, sans forcément en faire une profession, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi s'y intéresser sans forcément prendre des responsabilités ou des jetons dans les conseils d'administration ?
Dans tous les cas que vous avez cités, il n'y a pas un jeton de versé.
Oui, même à titre bénévole, d'ailleurs, je l'ajoute, oui. Ce n'est pas...
Bon.
Mais tout de même,
au fond,
pourquoi
c'est... Je ne sais pas bien répondre à votre question. Je pourrais vous répondre, et c'est vrai que dans aucun de ces cas, je n'ai exprimé une candidature, et dans chacun de ces cas, on me l'a proposé. Et que mon tempérament naturel, c'est que quand on me propose quelque chose qui me séduit, qui m'intéresse, je dis oui.
Bon, c'est pas une réponse suffisante.
Oui, mais je me demande s'il ne faudra pas vous en contenter. Parce que je crains que ce soit la vérité. Alors, c'est vrai, au fond, quand vous aimez quelque chose, beaucoup, de le voir d'un peu plus près, de le voir de l'intérieur, sans être un professionnel, c'est un plus. Je vais prendre l'exemple d'Avignon, si vous le voulez bien. J'ai fait un peu de théâtre dans ma jeunesse. Je suis un spectateur fanatique de théâtre. J'y vais plus d'une fois par semaine en moyenne, et quelqu'un que j'aime bien m'avait dit « Vous êtes un spectateur professionnel ». Bon, je suis un médiocre acteur. Je ne saurais pas du tout être un professionnel.